6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour, rebonjour Émilie Chollet.
Aujourd'hui, vous nous parlez de la visite du président Vladimir Poutine en France.
Voilà, et notamment évidemment des relations franco-russes avec notre invité Eugène Berg. Bonjour.
Bonjour Thierry Garcin, bonjour.
Vous êtes ambassadeur, ancien ambassadeur, auteur de La Russie pour les nuls chez First. Alors on le sait, les relations entre la France et la Russie ont souvent été en dents de scie. La mainmise sur deux provinces géorgiennes en 2008, le dossier ukrainien et l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le rôle de Moscou en Syrie depuis 2015, tout cela est bien connu. Et puis il y a eu les sanctions occidentales, suivies de contre-sanctions russes. Tout cela a à la fois divisé nombre de pays de l'Union européenne et n'a pas facilité le respect des accords de Minsk sur le dossier ukrainien, accord de 2015. Alors la question évidemment posée en conclusion, c'est est-ce qu'on peut assister à une relance de ces liens à la fois euro-russes et franco-russes en l'occurrence, compte tenu évidemment de la nouvelle présidence française. Tout cela fait beaucoup. Comment analysez-vous, Eugène Berg, l'état des lieux, on va dire, aujourd'hui?
Bon, bah écoutez, vous avez procédé à un remarquable état des lieux, d'ailleurs. Il faut le dire, mais on ne peut pas rentrer toujours dans les détails, que parfois les torts sont partagés. Il ne faut pas tout mettre du côté russe, notamment sur l'Ukraine. Une grande partie des accords de Minsk ne sont pas remplis par le président Petro Poroshenko, et ainsi de suite. Et puis sur la Syrie, on a vu que les évolutions des uns et des autres, notamment M. Trump, qui ne connaissait pas la ligne, ont évolué. Alors, pour être très bref et rapide, je crois que l'élection d'Emmanuel Macron, qui correspondait pas au départ aux vœux de Moscou, pour ne pas aller trop loin dans cette direction, est vraiment l'occasion d'un renouveau. Et je crois que le président français est un réaliste. Il essaye, sans oublier toutes les turpitudes de d'autres élections qui ont été suivies et qui ont été vraiment controversées, il essaye justement de ne pas répéter un certain nombre d'impasses dans lesquelles son prédécesseur s'est lui-même enfermé, pour essayer de d'écrire une page blanche. Alors, est-ce qu'il arrivera aujourd'hui ou pas? Au moins, il fera connaissance avec ce personnage qui est Vladimir Poutine, et il part évidemment en position, je ne dirais pas de force, mais quel intérêt, quel immense intérêt de recevoir chez soi dans ce cadre, et de replacer les relations franco-russes non pas dans l'immédiat, mais dans la durée, quoi. Finalement, Pierre Legrand était venu en France pour proposer une grande alliance avec la France, ça n'a pas marché. Et bien maintenant, je pense que après le G7, après la réunion de l'OTAN, notre président a l'immense possibilité de dire à Vladimir Poutine, voilà quelle est la position, voilà les positions que nous devons établir peu à peu. Et je crois qu'il faut vraiment attendre de cette première réunion quelque chose qui peut ouvrir un processus. Parce que là aussi, on a une fenêtre d'opportunité. Les élections auront lieu en Allemagne le 24, donc Merkel est encore prudente. Monsieur Trump n'épilogue pas, on ne sait pas très bien où il se situe sur beaucoup de problèmes. L'Europe est un peu en désarroi. Et la France, vraiment, a une voix maintenant qui va porter, il faut l'espérer, de plus en plus. Et donc la relation franco-russe s'inscrit dans cet ensemble géopolitique un peu mouvant. Et donc il y a le président, qui est d'une très grande habileté et déjà une expérience, peut le faire. Alors est-ce qu'il arrivera dès la première fois? On le verra, mais je crois qu'il faut l'espérer. En tout cas, on a la possibilité.
Voilà, alors Schoenberg, d'ailleurs, oui. Pour ceux qui auraient cru bon de ne pas écouter les enjeux internationaux jeudi, oui, et vendredi, puisque vous y faisiez référence, et pour la réécoute, donc on peut facilement voir ce qu'on avait dit avec nos invités sur l'Alliance Atlantique le jeudi et sur le G7, oui, le vendredi. Alors on revient aux rapports franco-russes, qui ne sont pas facilement séparables des rapports euro-russes, vous, oui, l'avez dit, dans un certain nombre de dossiers. Mais ce qui est frappant aussi sur le plan économique, c'est le fait que la France est, sauf erreur, le troisième fournisseur européen de la Russie, les exportations ont plus que quadruplé, de grands groupes français sont présents, et alors ce sont vraiment de très grands groupes et de grandes activités, puisque je vois pharmacie, grande distribution, produits chimiques, automobiles, banque, énergie, transport, et trois petits points, et j'ai mis les points de suspension. Donc, oui, ça veut dire que quand même, il y a des liens économiques très structurants.
Il y a des liens très structurants, la France est un grand investisseur, il y aura dans les mois à venir l'inauguration d'un immense projet qui est Yamal LNG, avec une coopération et chinoise et indienne, qui va produire 27 27 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, qui est un immense projet. Hein, et d'ailleurs, l'un des grands méthaniers, un des plus grands du monde, vient d'être appelé Christophe de Margerie, l'ancien PDG de Total, qui est mort à Moscou. Oui, donc
Bateaux méthaniers, c'est ça, oui.
Un grand méthanier qui est un espèce de brise-glace qui peut briser des glaces d'un mètre et demi de hauteur, de profondeur. Donc voilà un peu le contexte. Malgré les sanctions, les relations économiques se sont poursuivies. Là aussi, il y a beaucoup d'espoir puisque l'économie russe fonctionne maintenant un peu plus vite que la nôtre. Hein. Elle a 1,7% de croissance. Nous, on est plutôt à 1,3, 1,4. Mais évidemment, c'est pas assez pour la Russie qui a beaucoup de choses à rattraper. Donc là aussi, et d'ailleurs Emmanuel Macron, lorsqu'il est ministre de l'économie, en mai 2016, il était à Moscou, il a dit, ben, un jour, il faudra qu'on lève les sanctions. Bon, vous voyez, donc, il y a une espérance. Alors évidemment, on n'est pas encore en position de les lever, ça dépend des efforts, justement. Il y aura peut-être un début de compromis entre les deux hommes, parce que finalement, beaucoup de choses jouent au niveau personnel, qui pourront enclencher ce déclic qui pourra mener à la levée progressive des sanctions.
C'est ça, alors, Jeanne Berger, il y a quand même une chose importante, la marge de manœuvre de la France dépend aussi de son rôle au sein de l'Union européenne, de ses relations avec l'Allemagne, qui est assez prudente à l'égard de Moscou, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au fond, les rapports franco-russes dépendent inévitablement, nolens volens, des rapports euro-russes.
Tout à fait, mais c'est là que le côté novateur de notre président et son imagination peut marcher, puisque on a un crédit que peut-être n'avait pas le prédécesseur, un crédit de confiance, je peux employer le terme de dernière chance, sur beaucoup de dossiers, notre président, du fait de sa personnalité, du fait du grand ouf qui a été fait après les élections, la peur de l'arrivée de Marine Le Pen qui a ébranlé les chancelleries et les bourses, il a un crédit de confiance, je vais dire, et en Europe, et un peu dans le monde. Donc, c'est à lui de jouer et de transformer cette espérance en réalité. Alors, évidemment, ça ne se fera pas en semaines et en mois, parce que il y a les élections allemandes, il y a les élections... Alors, évidemment, Vladimir Poutine dépend beaucoup moins de son électorat que nous autres. Il sera élu en mars 18. Mais, justement, il faut préparer ces évolutions. Car le dégel, si dégel il y a, il se passera justement au début 18, au printemps 18. Mais pour ça, il faut le préparer sur des dossiers, faire l'état des lieux et débloquer. Par exemple, sur la Syrie, qui est extrêmement complexe, bon, il y a eu beaucoup d'émotions au moment de la chute d'Alep. Il y a eu des réunions à Astana, à Genève, tout ça ne démarre pas beaucoup, ça dépend des Américains. Eh bien, si la France avait une position un peu plus subtile et un peu plus évolutive, ne pas se braquer uniquement sur la personnalité de Bachar el-Assad, en concertation avec nos amis russes. Par exemple, ils ont proposé un projet de constitution qui est assez novateur. Eh bien, on peut discuter ça avec eux. De dire niet d'un seul coup, c'est pas toujours très habile. Donc, vous voyez, sur ces dossiers assez techniques, mais en politique, il y a une marge de manœuvre, et encore une fois, j'insiste qu'il faut la saisir. Parce que le dialogue existe dans le cadre de Minsk, les torts sont partagés.
Ils ne sont pas de même nature, ils ne sont pas de même nature, mais ils sont partagés. Et, enfin, ça,
oui, bien sûr.
Voilà,
bien
c'est
sûr,
ça ce qu'il faut
nature,
dire.
Je veux dire, il faut dialoguer. Il faut dialoguer parce qu'on sait très bien que sans Moscou, on n'arrivera pas et à stabiliser l'Ukraine. Et, et là aussi, il y a peut-être une proposition qui tient au cœur aux Russes, qui a été faite par Medvedev déjà 2009. C'est l'immense dossier d'une conférence de sécurité en Europe. Il faut la préparer sur différents volets.
On y reviendra. On y reviendra. Je suis obligé de vous interrompre, Jeanne. Il y a beaucoup de choses à dire. Il faudrait aussi voir comment la relation franco-russe dépend de la relation entre les États-Unis et la Russie. Il y a mille choses à dire. En tout cas, merci. Vous êtes ancien ambassadeur, auteur de La Russie pour les nuls, chez First, franceculture.fr pour écouter les émissions, pour les télécharger. Et Émilie, ne me dites pas que je suis en retard. Il est pile
6h55. Vous êtes très ponctuel, Thierry Garcin, et je vous en remercie. Et demain, il sera question de la visite du Premier ministre Modi à Paris.
Voilà, absolument. Et on va parler évidemment des rapport là aussi entre l'Inde, l'Europe, l'Inde et la France, avec Jean-Joseph Boileau, spécialiste de l'économie des pays émergents.
À demain Thierry, il est 6h55 sur France Culture.